Ce matin, j'aimerais continuer notre réflexion biblique sur le travail. Le travail, c'est quoi au juste? Alors, j'avais réussi à faire 3 points la semaine dernière et on va faire le 4e. Alors, j'étais pas spécialement frustré de ne pas faire ce 4e, mais ce 4e point, quand même, est très important. Vous allez le découvrir bientôt. Et même, je pense qu'il englobe tous les autres points, toute cette vision biblique sur le travail. Alors, on avait commencé plus ou moins par citer cette phrase d'une autrice, Anne-Marie Husson, « Ma vie professionnelle, une aventure de foi », qui disait « Le travail est-il à voir comme une malédiction, quelque chose à endurer, ou une bénédiction, ou comme une bénédiction, quelque chose à savourer ?» Et je crois qu'elle mettait bien l'accent sur cette ambivalence du travail, malédiction ou bénédiction. Alors, ça dépend des moments, ça dépend du travail, ça dépend des circonstances, etc. Mais on est bien dans l'entre-deux. Alors, avant de rappeler les 3 premiers points, je voudrais insister sur 2 ou 3 choses. 2, en fait. Pour dire que je ne suis pas en train de faire l'apologie du travail. En disant que dans le monde du travail, tout le monde est beau, tout le monde, il est gentil. C'est pas vrai. On n'est pas dans un monde de bisounours, c'est certainement pas dans le monde du travail. Après la prédication de la semaine dernière, donc sur les 3 premiers points, je parlais avec quelqu'un qui travaille dans l'éducation nationale et qui avait d'énormes problèmes avec son proviseur adjoint. Quelqu'un d'infâme, de difficile, de compliqué et en plus d'incompétent. Et cette personne, ce professeur, était limite dépression, limite à verser dans la dépression. Anne-Marie Husson parle d'environnement hostile dans le travail. Il faut pas le nier. Ça, c'était la première chose. Et puis, deuxième chose que je voulais rappeler, c'est ce qui est vrai pour le travail est vrai pour aussi toutes les activités. Donc, la semaine dernière, quand j'ai commencé à parler des retraités actifs, il y a 75% de l'Église qui a commencé à rire. « Ah, enfin, on parle de nous !» J'avais oublié qu'on était à Cannes et qu'on avait pas mal de retraités parmi nous. Mais travailler ou s'activer ou œuvrer, c'est la même chose. D'ailleurs, le mot en grec, la langue dans laquelle a été écrit le Nouveau Testament, c'est le même verbe, ergazomai, pour travailler ou œuvrer ou s'activer. Donc, retraité actif, chômeur qui s'active à chercher du travail, personne à la maison, en congé parental, qui s'active et également, on est tous dans le même esprit, dans cet esprit du travail. Alors, première affirmation sur le travail est la suivante, elle était très simple, on la reprend, travailler, c'est gagner son pain. Alors, c'est basique, mais c'est tout à fait biblique et je pense qu'il nous faut la redécouvrir aussi, cette affirmation, pour renouveler notre vision du travail. Jésus dira cette phrase, l'ouvrier mérite son salaire. Le travailleur mérite son salaire. Il n'est pas question de baisser son salaire, de spolier de son salaire. C'est pour cela qu'il travaille, pour subvenir aux besoins, à ses besoins ou aux besoins de sa famille. Le travail alimentaire a tout son sens et toute sa dignité. La deuxième affirmation, c'est travailler, c'est imiter Dieu. On le voit dans le premier livre de la Genèse, Dieu travaille à ses créations 6 jours, et puis le 7e jour, d'ailleurs, il se repose, et il y a aussi une vision biblique pour le repos. On est aussi appelé à se reposer, mais pendant 6 jours, il travaille, et l'homme et la femme ont été faits à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, on pourrait dire, pour qu'il domine sur la création, pour qu'il travaille, qu'il gère cette création, le jardin d'abord, et puis la société après. Donc travailler, c'est être tout à fait dans le mandat que Dieu a donné à l'homme, la femme, d'hier et d'aujourd'hui. On est fait pour avoir une activité. Alors, on l'a dit aussi, il y a eu dans ce jardin d'Éden un problème, qu'on appelle parfois la chute, je préfère le mot rupture. Rupture d'une relation bienfaisante avec Dieu, révolte de l'homme avec Adam et Ève, tous les deux responsables d'ailleurs, le silence d'Adam, l'initiative malheureuse de Ève, et tout a été terni par le mal, la relation avec Dieu a été ternie par le mal, il se cache de Dieu. La relation entre l'homme et la femme, ils s'accusent mutuellement d'avoir succombé à la tentation. La relation avec la création, et on en voit le résultat aujourd'hui, et la relation au travail, qui devient pénible, qui devient compliquée, avec de l'exploitation, avec des inégalités que la Bible va dénoncer dans Amos, par exemple, dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament et dans l'Épître de Jacques, dans le Nouveau Testament. Il y a la pénibilité du travail qui apparaît. Et je pense, on parle beaucoup de pénibilité du travail, il y a des travails qui sont extrêmement pénibles, mais je pense que tout travail a son côté pénible. Mais le travail, ou l'activité même déformée, reste une bénédiction qui nous vient de Dieu et qui se prolongera dans cette nouvelle terre et sous ces nouveaux cieux qui nous attendent quand le Christ apparaîtra. On continuera à travailler dans cette nouvelle terre, sur cette nouvelle terre. Et puis, troisième affirmation, travailler, c'est servir les autres. Et là, c'est surprenant parce que aujourd'hui, dans le monde du travail, on n'a pas vraiment l'esprit de service. Et pourtant, travailler, selon la parole de Dieu, c'est aussi se mettre au service des autres, dans la communauté, dans la société. D'ailleurs, le mot « métier » vient du mot « ministère », ministère, métier, ministère qui veut dire « service ». Travailler, c'est servir, c'est exercer un ministère envers les autres, un service du prochain. Et avec cette notion de service, on rentre en plein dans l'Évangile, au cœur même de l'Évangile, puisque Jésus, le Christ, est devenu serviteur. Il s'est dépouillé de la gloire de son Père pour devenir serviteur, pour accomplir en lui le salut de l'humanité. Le service, la notion de serviteur, de servir les autres, c'est le cœur de l'Évangile. C'est, si je peux me permettre l'expression, c'est dans l'ADN de Dieu le service. Le Fils de l'homme, nous est-il dit dans Marc 10, est venu non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour beaucoup, pour nous, pour moi, pour toi. Et donc, le travail est un service et dans ce sens-là, il a toute sa dignité, toute sa valeur. Dans le royaume de Dieu, nous travaillons ou nous nous activons, non pas pour nous servir des autres, mais pour servir les autres. C'est un beau projet, n'est-ce pas ? Travailler, c'est servir les autres. Alors au quotidien, il faut l'avouer, c'est pas toujours simple, ou comme on disait dans les années 80, c'est pas évident. C'est pas évident, mais je pense qu'il nous faut quand même retrouver cette vision-là du travail comme un service pour les autres. Ça me semble, ça donne la possibilité de retrouver un certain élan. Et puis, le quatrième, celui que j'ai pas pu donner la semaine dernière, travailler, c'est glorifier Dieu. C'est-à-dire de lui rendre gloire. C'est-à-dire, encore une fois, le mot gloire en hébreu, ça veut dire poids. C'est-à-dire, lui rendre gloire, c'est lui donner du poids à Dieu. Donner du poids à Dieu dans ma vie, dans mon travail, dans ma vie de travailleur, travailleuse, comme disait Georges Marchais. Alors, le travail, ce n'est pas le seul endroit où on peut glorifier Dieu, ou seul domaine plutôt, où l'on peut glorifier Dieu. Il y en a bien d'autres, mais il faut se rappeler, on a besoin de se le rappeler, que le travail, ou l'activité, c'est aussi un domaine où l'on peut glorifier Dieu. Le travail n'est pas du temps perdu dans sa vie chrétienne ou sa vie spirituelle. On a parfois l'impression que le temps spirituel et le temps passé à l'église le dimanche matin ou lors de son culte personnel ou dans les groupes de maison où on lit la Bible, où on prie, et le temps du travail serait comme une sorte de parenthèse dans la vie spirituelle, juste pour gagner son pain, comme on l'a dit le premier point. Et on en arriverait à une sorte de vie chrétienne à deux vitesses, je caricature un peu. La semaine au travail, difficile, ennuyante, laborieuse, une semaine où que l'on subit et que l'on traverse comme un zombie, et le week-end où l'on vit vraiment spirituellement, humainement, relationnellement. Comme je répète, je caricature un peu, mais il y a un petit peu de vrai aussi. La Bible nous dit autre chose, et à plusieurs reprises, Paul dans 1 Corinthiens, « Bref, quoi que ce soit que vous fassiez, quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Colossiens 3:20, « Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, et cela comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Il y a chez Paul, inspiré par le Saint-Esprit et fabricant de tentes, il travaillait aussi Paul, un désir de tout intégrer dans la vie chrétienne à la gloire de Dieu. Le travail aussi, les activités aussi. Il y avait dans la cuisine d'une maison, d'une famille nombreuse, une pancarte qui disait « Ici, on sert Dieu 3 fois par jour ». Et on parle de frère Laurent de la Résurrection, c'est lui, on a une photo, je ne sais pas de quel siècle ça date, c'est un moine qui travaillait en cuisine, encore, et qui était champion de l'intégration de la vie spirituelle dans tous les domaines de la vie. Frère Laurent disait « J'offre à Dieu mon omelette ». Quoi de plus banal que de casser les œufs pour faire une omelette ? Moi-même, je peux le faire. Je le fais pas souvent, mais je peux le faire. Mes frères, Laurent offrait son omelette à Dieu, et ça, ça change tout. Peut-être même à la saveur de l'omelette. Luther, le réformateur du XVIe siècle, qui parlait, bien sûr, anglais. Non, il était allemand, il parlait allemand, mais j'ai pas réussi à avoir cette citation en allemand, ni en français, d'ailleurs. Alors, je me risque à traduire devant ma femme, traductrice. Donc, voilà ce que dit Luther au XVIe siècle, en 1520, 1525. Le fermier dans les champs ou sa femme à la cuisine, qui font leur travail avec foi et pour la gloire de Dieu, répondent à un appel aussi saint et aussi élevé que le prédicateur en chair et en os. Non, en chair avec un E. C'est la même chose. Alors, attention, glorifier Dieu à son travail, ça ne veut pas dire transformer son entreprise en église. Ça ne veut pas dire de transformer sa classe en une réunion d'évangélisation. Ça ne veut pas dire transformer son bureau en une table de littérature chrétienne. Bien sûr, dans le cadre du travail, il y aura des occasions qui se présentent à nous pour témoigner de notre foi en Dieu, en ce Dieu d'amour, sur notre lieu de travail. Et il faut le faire avec prudence, dans un contexte de laïcité, mais avec une certaine audace quand même, comme le rappelle Sarah Rousseau, pardon, dans cet article « Laïcité et évangélisation, une contradiction ». C'était dans le Rioux, l'avant-dernier ou le dernier, non, l'avant-dernier, allez, et qui dit « Oui, on peut témoigner de sa foi dans ce contexte de laïcité ». Attention, pas faire de prosélytisme qui est une forme de pression. La liberté d'expression n'est pas liberté d'oppression. Mais témoigner, oui, pas de prosélytisme au travail, mais oui au témoignage. Glorifier Dieu sur son lieu de travail. Mais ce que nous dit cette parole de Paul sur le travail à la gloire de Dieu porte surtout sur notre attitude dans ce travail. Faites tout de bon cœur, littéralement, de toute votre âme, de toute votre intériorité, que ça sorte de votre âme, c'est-à-dire en s'engageant dans ce qu'on fait, en étant tout entier à ce travail, non pas pour plaire aux hommes, non pas pour gagner une promotion, non pas pour gravir les échelons, même si ce n'est pas interdit de le faire, mais non pas pour jouer le faillot de service ou le premier de classe, mais par égard pour le Seigneur, pour le témoignage à rendre au Seigneur. Faites tout de bon cœur pour la gloire de Dieu. un chef d'entreprise chrétien qui vendait des millions d'œufs de poules, enfin qui avait des milliers ou des dizaines de milliers de poules pondeuses et qui vendait des... C'était incroyable le nombre d'œufs ou d'œufs qu'il vendait par semaine. Et il a donné un jour une petite réunion, un conseil aux travailleurs et travailleuses chrétiens qui travaillent à l'université, au lycée, au collège, à l'hôpital, à domicile, chez les gens, dans une entreprise, dans un magasin. Il leur conseillait d'arriver sur les lieux de leur travail comme un ambassadeur, avec la limousine et les deux petits drapeaux là devant sur les ailes avant de la voiture, et de se considérer comme un ambassadeur de Christ. Une voiture d'ambassadeur, ambassadeur du royaume de Dieu sur le lieu du travail, dans le monde du travail. Alors bien sûr, on a parfois un peu peur de rendre un mauvais témoignage sur son lieu de travail. On n'est pas à l'abri d'une erreur dans son travail. On n'est pas à l'abri d'un petit coup d'énervement dans son travail. On n'est pas à l'abri de verser dans le côté très critique de notre société et dans le monde du travail que l'on peut avoir, où on se critique les uns les autres. Ça peut arriver. Mais le Seigneur fait grâce aussi. Et il ne faut pas oublier non plus la puissance du pardon dans le monde du travail. Quand on dit à quelqu'un « excuse-moi », là, j'ai passé un peu les limites, je me suis énervé inutilement. La puissance du pardon, la puissance de la grâce dans le monde du travail, osons-la aussi. Ayons cette audace-là d'introduire la grâce dans le monde du travail. Et au synode, Mathias en a parlé tout à l'heure, nous avons eu deux conférenciers très très bons, Frédéric de Coninck, sociologue, mais aussi Daniel Lichty, missiologue. Et c'est un Suisse qui donne des cours à la faculté de Vaux-sur-Seine, et il parlait de deux églises, comme l'a dit Mathias tout à l'heure aussi, l'église rassemblée et l'église dispersée. Alors l'église rassemblée, c'est ce que nous sommes ce matin. Voilà, ça c'est une photo de notre service de baptême d'il y a 15 jours. Mais il parle aussi de l'église dispersée, et c'est ce que nous serons lundi matin. On sera dispersés, mais ce sera encore l'Église. Et c'est ça qui est intéressant dans cette formulation. Parce que l'Église, ce n'est pas simplement un bâtiment aussi sympathique et vintage soit-il qu'ici, mais l'Église, c'est vous. L'Église, c'est les gens, le peuple de Dieu, et l'Église, ce n'est pas seulement le dimanche matin quand elle est rassemblée, même si on y est bien, comme disait le chant, mais c'est aussi tous les jours de la semaine dans le monde de votre travail, dans toutes les activités que vous faites, et on espère que vous y êtes bien aussi. Et c'est important de le répéter, église rassemblée, église dispersée, mais église quand même où on veut être bien. On se rassemble. Et les deux vont de pair, église rassemblée, église dispersée, on se rassemble quelque part pour mieux se disperser. Et j'ai trouvé que c'était une belle idée, une idée biblique. Nous sommes son église tous les jours, jusqu'à la fin. Une église rassemblée, une église dispersée, un lieu d'espoir pour le monde, un laboratoire d'amour et d'accueil pour les autres et pour ce monde qui en a bien besoin. Et ça change aussi ma vision du travail, n'est-ce pas ? Je fais partie de l'Église, à la fois rassemblée, mais aussi l'Église dispersée. En semaine, je vis l'Église. Alors, vous savez, il m'est arrivé de faire un vrai travail dans ma vie. Voilà, l'Église dispersée au bureau. J'ai travaillé au Super GB à Bruxelles. GB pour Grand Bazar. Le Super Grand Bazar, qui a été racheté par Carrefour, d'ailleurs, comme vous le voyez. Et j'ai travaillé quelques mois et c'était pas une expérience fantastique. Le travail était très monotone, je nivelais les rayons, donc je mettais dans les rayons. Et c'était un peu abrutissant, les relations avec les collègues étaient minimales, ouais, il se passait rien. Mais à la cantine, une salle très triste avec du mobilier en plastique et du contreplaqué, il y avait une pancarte fantastique. La solution, c'est l'enthousiasme. Alors j'ai trouvé, je me dis, est-ce que c'est de l'humour? J'ai trouvé ça parfaitement décalé ou ironique, peut-être même cynique. Et peut-être que vous trouvez cette prédication ou ces deux prédications sur le travail tout à fait décalées par rapport à votre travail. Si le prédicateur se rendait compte de mes conditions de travail, lui dire « la clé c'est l'enthousiasme », pouf, tu parles. Mais ce n'est peut-être pas tout à fait faux si on reprend l'étymologie du mot « enthousiasme ». Entheos en grec, en Dieu. Et oui, si la solution pour mon travail, c'était de retrouver une vision divine, une vision ou la vision de Dieu sur le travail, d'être en Dieu, de retrouver une vision du travail par son esprit qui a inspiré la parole et qui nous inspire aussi pour la mettre en pratique et pour la comprendre aujourd'hui. Travailleurs, travailleuses, que le Seigneur renouvelle notre esprit dans la vision que nous avons de notre travail, de notre métier, de notre profession, de nos activités. Et je termine par ce magnifique verset du psaume 102 qui replace le travail dans la création de Dieu. Les lionceaux rugissent après leur proie. Ils demandent à Dieu leur nourriture. Mais dès que paraît le soleil, ils se retirent pour se coucher dans leur tanière. Et l'homme sort pour se livrer à son activité, accomplir son travail jusqu'à la nuit. Amen.